D'abord, je ne l'ai pas connu comme prédateur sexuel.
On ne peut pas laisser une affaire comme celle-ci être alimentée par des gens, y compris qui viennent plaquer des théories du complot antisémite.
Je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle pour porter la voix d'une gauche républicaine.
Madame Le Pen, comment ça va ?
Quoi qu'il arrive, je ne ferai jamais perdre la droite.
Jack Lang dans la tempête des dossiers Epstein, Marine Le Pen bientôt écartée de la présidentielle, Jérôme Gage, candidat à l'Élysée, et Sarah Knafo qui fait son trou dans les sondages. C'est le sommaire de ce Pôle Express numéro 175. Son nom apparaît 685 fois dans les documents de l'affaire Epstein, 3,5 millions de pages qui viennent d'être mises en ligne par le ministère de la Justice américain. Mais Jack Lang, figure emblématique de la gauche caviar des années 1980, se refuse à démissionner de son poste de président de l'Institut du Monde Arabe, l'IMA.
Plaisanterie, l'IMA est plus solide que jamais. J'ai reçu d'ailleurs, depuis toutes ces histoires, des milliers de messages venant des pays arabes, de France et d'ailleurs.
Pourtant, les appels à la démission se multiplient. Ségolène Royal, Renaud Muselier ou encore Jean-Christophe Cambadélis ont souhaité publiquement qu'il se retire. Sur France Info, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s'est montré très ferme. À ce stade, rien n'implique Jack Lang dans les scandales sexuels, mais il doit réfléchir à sa démission pour protéger l'institution qu'il préside. J'ignore si Lang est coupable d'avoir, en connaissance de cause, fermé les yeux sur les agissements d'Epstein et si par sa fréquentation, il a participé à les couvrir. Mais ce qui d'ores et déjà heurte, c'est la façon dont il évoque aujourd'hui l'affaire.
D'abord, je ne l'ai pas connu comme prédateur sexuel. Je l'ai connu quand il était assez proche de Woody Allen. Moi, je n'ai jamais reçu le moindre centime de M. Epstein et Caroline, pas davantage.
Et pourtant, l'ancien ministre de la Culture a bénéficié d'un coup de pouce de 58 000 dollars pour terminer un film à sa gloire. Son nom apparaît encore au détour de la vente d'un riad à Marrakech. Quant à sa fille, Caroline, elle avait fondé en 2016 une société offshore dans les îles Vierges avec Epstein. Et celui-ci, deux jours avant sa mort, en 2019, l'a couchée sur son testament pour la modique somme de 5 millions de dollars. À l'insu de son plein gré, comme aurait dit le coureur cycliste Richard Virenque, puisque Caroline Lang affirme avoir ignoré l'existence de ce testament. Lundi, elle a quand même démissionné de son poste de délégué général du syndicat de la production indépendante. Ça se passe comme ça dans cet entre-soi de connivence et de privilèges. On peut se retrouver sur un testament par inadvertance. Alors vous qui me regardez, n'hésitez pas à me porter sur votre testament. Même 1 million, je prends. Pour y voir clair dans ce déluge d'informations, le député LFI Antoine Léaumont a annoncé mardi la création d'une commission d'enquête.
Et puis il y a deux volets dans cette affaire. Il y a un volet donc, qui est le volet pédocriminel de traite d'êtres humains et un volet qui est un volet sans doute politique, de questions d'ingérence, de questions de financement parfois de partis politiques. Et sur ces deux aspects, il nous semble nécessaire que la représentation nationale fasse sa part du travail. Et je veux insister sur ce point-là parce qu'il me semble qu'il y a des dangers face à ces révélations. Le premier danger, ce serait celui du silence. Et je vois beaucoup de gens s'étonner à la fois du silence des politiques, puisque à part les responsables de la France insoumise, je n'ai pas vu grand monde en parler, et à la fois du silence médiatique, même s'il est en train de se corriger. Il est logique que quand il y a 3,5 millions de documents qui sont publiés, il faille du temps pour pouvoir les analyser. Le danger principal, c'est celui du silence, parce que ce silence alimente les théories du complot. Et on ne peut pas laisser une affaire comme celle-ci être alimentée par des gens, y compris qui viennent plaquer des théories du complot antisémite sur cette affaire Epstein. C'est pourquoi nous allons proposer une commission d'enquête. Nous allons la proposer à la signature de l'ensemble des groupes républicains de notre Assemblée pour permettre qu'éventuellement elle puisse voir le jour dans le cadre d'une semaine transpartisane. Ça serait l'idéal et ça permettrait à chacun de s'y impliquer compte tenu du fait qu'il y a plusieurs noms de Français qui sont cités dans cette affaire et qu'il faut bien justement faire la distinction entre ce qui peut relever de crimes pédocriminels, de traite d'êtres humains et qui, pour l'instant, ne concerne pas a priori des noms d'individus français et ce qui relève du champ politique, du champ de l'ingérence, du champ du financement.
La tâche est titanesque et même avec l'assistance des administrateurs de l'Assemblée nationale, les députés vont avoir du mal à venir à bout des 3,5 millions de pages. Surtout en 6 mois, le délai maximum accordé à une commission d'enquête pour mener à bien sa mission. Il n'en reste pas moins vrai que c'est là une initiative salutaire. Marine Le Pen sera-t-elle la candidate du Rassemblement national en 2027? Cette perspective semble s'éloigner. Mardi 3 février, le parquet général a requis en appel 5 ans d'inéligibilité sans exécution provisoire, ainsi que 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, contre la possible candidate, toujours dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front national. Si les magistrats suivent les avocats généraux, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle. La seule issue pour elle sera alors de se pourvoir en cassation. Cette action suspend l'arrêt de la cour d'appel. Anticipant cette hypothèse, le premier président de la cour de cassation s'est engagé à rendre une décision avant la présidentielle. À supposer que Marine Le Pen puisse, dans l'intervalle, briguer la magistrature suprême, la part d'incertitude reste trop forte. En cas de confirmation de l'arrêt de la cour d'appel, le Rassemblement national devrait changer de candidat en plein milieu de la campagne. Outre le trouble dans l'électorat, des difficultés techniques surgiraient, notamment sur tout ce qui touche aux comptes de campagne et aux mandataires financiers. Dernier scénario, celui d'une peine d'inéligibilité qui n'excéderait pas 2 ans. Le 1er avril 2027, ça ne s'invente pas. Marine Le Pen pourrait alors déposer sa candidature auprès du Conseil constitutionnel. Mais vu la tournure des débats, il serait surprenant que la Cour d'appel adoucisse le jugement rendu en première instance. La présidentielle et la gauche, ça ressemble de plus en plus à Blanche-Neige et les 7 nains. Ils sont désormais 7 à espérer que Marianne les choisisse. Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Clémentine Autain, Marine Tondelier, François Hollande sans doute, et maintenant Jérôme Gage. La tête de Turc préférée des Insoumis a déclaré sa flamme ce jeudi matin sur France Inter.
Je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle pour porter la voix d'une gauche républicaine, la voix d'une gauche européenne, la voix d'une gauche universaliste, laïque, d'une gauche sociale, écologiste.
Un discours sympathique, mais qui masque surtout une de ces manœuvres souterraines dont le PS a le secret. Car cette candidature surprise vient opportunément bloquer un espace, celui qu'Olivier Faure songeait à occuper quelque part entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann. La figure de proue de place publique n'imprime pas dans l'opinion. Trop solitaire, trop libéral, et surtout aussi charismatique qu'une huître tombée dans un congélateur. On a pu le constater lors de ses récentes prestations télévisées. Le premier secrétaire du Parti Socialiste a donc commencé à se dire « Pourquoi le candidat de la gauche unie, ça ne serait pas moi ?» De là les efforts méritoires d'Olivier Faure pour maintenir à flot le projet de la primaire de la gauche en octobre prochain. La gauche Bagneux, comme on a pris l'habitude de la désigner. L'onction de celle-ci aurait apporté au premier secrétaire du PS la légitimité qui lui fait défaut à l'intérieur de son propre parti. Mais l'annonce de Jérôme Gage vient bloquer cette marche discrète vers la candidature.
Tout ceci me paraît très baroque parce que ça met la charrue avant les bœufs. Quelle est l'orientation programmatique?
Si la moitié des candidats de gauche s'affranchit de la primaire, celle-ci perd sa raison d'être. Et c'est bien le but de cette opération. Laisser le champ libre à celui qui ne rêve que de retrouver l'Élysée, François Hollande. Il y a fort à parier que le député de l'Essonne, constatant le peu d'entrain qu'il suscite, s'effacera le moment venu devant le retour de la momie corrézienne. Sans faire de bruit, Sarah Knafo, la candidate de Reconquête à la mairie de Paris, grimpe dans les sondages. En début de semaine, une enquête de l'Institut Cluster 17 l'a donnée pour la première fois à 10%. Elle serait désormais en mesure de se maintenir au second tour. Le candidat du Rassemblement national, Thierry Mariani, lui, s'effondre. Antoine Etcheto a profité d'une réunion de quartier pour voir à quoi ressemblaient les habits neufs du zémourisme.
Ce soir, Sarah Knafo a donné rendez-vous à ses soutiens en bord de Seine. Pour la première fois, la candidate Reconquête atteint la barre fatidique des 10% dans certains sondages. Elle pourrait donc se qualifier au second tour. Celle qui milite pour l'Union des droites se retrouverait alors en position de faiseuse de roi dans la capitale. Dans cette reconstitution d'un bar basque, l'extrême droite montre patte blanche. Là où Éric Zemmour était clivant pour dynamiter la droite, Sarah Knafo propose au contraire de faire campagne sur le bonheur et l'amour.
Et vous vous souvenez comme moi de toutes ces fois où Madame Hidalgo n'a jamais écouté Et quand le préfet de police, non, on n'est pas là pour huer les gens, vous allez voir, on va faire une ville heureuse, on n'a pas besoin de les détester. On est dans l'amour, on aime Paris. Et je vais vous dire, même les gens qui ne nous aiment pas encore, demain ils bénéficieront de notre politique. Et demain ils nous aimeront.
Un visage plus souriant, mais qui assume un discours résolument de droite. Dans le collimateur de Sarah Knafo, le budget de la ville de Paris. Elle veut réaliser 10 milliards d'économies et réduire drastiquement les effectifs municipaux.
Ce plan d'économie de 10 milliards d'euros, comment est-ce qu'on le décompose ? Premièrement, on divise par deux les effectifs de la ville de Paris. J'ai commencé par ça, c'est le grand scandale. C'est l'explosion des effectifs municipaux. Avec un grand paradoxe, c'est qu'à mesure qu'il y a eu de plus en plus de fonctionnaires, il y a eu de moins en moins de Parisiens. C'est fantastique. On a perdu 200 000 familles à Paris, mais on a gagné 30 000 fonctionnaires. Extraordinaire.
On cherche ici en vain des outrances zémouriennes sur l'identité ou l'immigration. Pas de caricature, tout est lisse. Un discours qui ne peut que plaire dans le très bourgeois 16e arrondissement où elle est candidate.
Non seulement je suis candidate à la mairie de Paris, mais je suis également candidate à la mairie du 16e arrondissement. Parce que je suis sûre que tout ce qu'il y a de bien dans le 16e arrondissement, on arrivera à l'étendre au reste de la capitale. Et tout ce qu'il y a de mal, tous les dangers, la saleté, l'insécurité que vous ressentez, tous ces sujets, on va les corriger un par un, de manière rationnelle. Chaque problème a sa solution.
Si elle est qualifiée au second tour, que fera-t-elle ? Rejoindra-t-elle Rachida Dati ? Je lui ai posé la question.
Dans ce cas-là, je gagnerai la mairie, surtout. Donc ce que j'espère, c'est demain être en tête au premier tour. Et alors à partir de ce moment-là, ce que je ferai, c'est que je tendrai la main à toutes les forces de droite, quelles qu'elles soient. Tous ceux qui ont émis des propositions qui sont cohérentes avec ce qu'attendent les Parisiens, c'est-à-dire plus de sécurité, moins de gabegie, la baisse des impôts, tout cela, je leur tendrai la main. Et on aura tous besoin des autres demain au Conseil de Paris. Donc, quoi qu'il arrive, je ne ferai jamais perdre la droite. J'ai conscience qu'on aura tous besoin les uns des autres. C'est aussi la raison pour laquelle je n'attaque pas mes adversaires, parce que je sais être humble et savoir que les forces s'additionnent. Et donc, on n'a pas besoin de se taper dessus, parce qu'il ne faut pas insulter l'avenir. Et qu'on aura tous besoin les uns des autres demain pour gagner la ville. Après 25 ans de socialisme, il est grand temps qu'on récupère la mairie.
Quelles seraient les conditions pour que vous fassiez alliance avec Rachida Dati au second tour ?
Les conditions, c'est le programme. C'est-à-dire que, comme je viens de vous le dire, si on est d'accord et qu'on est sincère pour plus de sécurité pour les Parisiens, pour moins de gabegie, pour la baisse des impôts, alors je vois aucune raison qui nous empêcherait de nous allier au second tour. Merci à vous.
À Paris, Sarah Knafo propose un zémourisme soft. Stratégie payante si on en croit les sondages, pour celles qui cherchent à se rendre fréquentable à droite. Elle pourrait se maintenir au deuxième tour si elle franchit la barre des 10%.
Merci d'avoir regardé cette chronique. Ne lésinez pas sur les pouces et les partages si vous l'avez apprécié. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Pour nous soutenir financièrement, cap sur DonorBox. Vos dons sont la garantie de notre indépendance et de notre impertinence. Un grand merci à tous ceux qui nous accompagnent dans cette aventure qui n'a rien d'un long fleuve tranquille. On se retrouve lundi pour un Pôle Express.